En ce dimanche 19 février 2012, nous allons faire le bilan sur l'année 2011 et puisque nous allons avoir notre assemblée générale cet après-midi. Celle-ci va retracer toutes les activités que nous avons eues, tous les ministères que chaque membre ou chaque responsable a effectué pour la gloire de Dieu et pour l'avancée de son royaume. Qu'en est-il réellement ? Je vais vous raconter un secret, et notamment un secret de notre Église et du conseil de notre Église. J'espère que tu n'as pas trop peur, Michel. Au conseil, nous sommes constamment animés d'un objectif, la croissance spirituelle du corps de Christ et aussi la croissance de l'Église. Et nous avons la vision des âmes qui se perdent autour de nous. Tous nos objectifs sont calqués sur celui-ci et notre désir est de voir l'Église grandir en nombre, mais aussi en qualité. Les membres dont nous faisons partie, les membres du conseil, doivent ressembler toujours plus à Christ. Les activités que nous souhaitons promouvoir ont ces buts, soit la croissance numérique par l'évangélisation, soit la croissance spirituelle des membres par l'édification. J'aimerais ce matin que nous puissions revenir à la parole de Dieu pour essayer de découvrir la clé de la croissance de l'Évangile. La clé qui ouvrira la possibilité à une propagation toujours plus grande de l'Évangile par notre intermédiaire personnellement et par notre Église. Sans cette clé, la partie est perdue d'avance et nous ne produirons aucun fruit et l'Évangile ne progressera pas. Sans cette clé, les divisions viendront tôt ou tard pour détruire l'Église. Sans cette clé, toutes nos actions et tous nos ministères ne servent à rien, si ce n'est à perdre du temps et beaucoup d'énergie. Je vous invite à remonter le temps avec moi et à découvrir la clé de la croissance de l'Évangile. Elle est d'ailleurs fait l'objet d'une controverse énorme dans l'Église primitive. Elle a presque failli anéantir l'Église du premier siècle. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a nécessité une rencontre au sommet entre tous les responsables de l'Église. Le sujet était grave. C'était la clé de la croissance de l'Évangile dans le monde. C'est le cœur de l'Évangile. Je vous invite à découvrir avec moi et à lire Actes 15, 1 à 29. Actes 15, 1 à 29. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres dès leur monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, en racontant les détails, la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter ? mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Toute la multitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, et j'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles et de l'inconduite et des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, homme estimé parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Vos frères, les apôtres et anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Pour resituer Actes 15 dans son contexte, le livre des Actes raconte les événements fondateurs de l'Église et attribue la plupart d'entre eux aux apôtres. Mais sans doute, Luc aurait préféré le titre « Les Actes du Saint-Esprit ». Tant l'œuvre du Saint-Esprit est à l'œuvre dans le démarrage de cette Église. Ce livre coupe une période d'environ 30 ans de l'histoire de l'Église. L'objectif de l'auteur est de montrer la progression et la croissance sans précédent de la parole de Dieu et donc de l'Église, de l'Évangile. C'est d'ailleurs pour cela que jalonne tout au long du livre des Actes le propos suivant qui donne vie à la progression. Actes 6, 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Acte 9, 31, l'Église était en paix et dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 12, 24, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Acte 16, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Acte 19, 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Chaque section nous amène à franchir une nouvelle étape géographique et culturelle de l'annonce de l'Évangile. Pour situer notre texte, nous sommes environ entre 49 et 50 après Jésus-Christ. La nation romaine est encore au pouvoir. Nous sommes à mi-chemin, à mi-parcours dans la narration de la progression de l'Évangile, soit entre 12 et 15 années après le passage d'Acte 2. Mais l'heure est grave. L'heure est grave, la tension est palpable. Paul et Barnabas sont en plein débat, acharnés. Ils ne lâchent rien. Leur visage laisse passer des ridules d'inquiétude. Leur discussion ne se lasse d'essayer de convaincre leur auditoire du bien fondé de leur dire. Que se passe-t-il ? Verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient : si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Nous n'avons pas pour l'instant des précisions sur qui sont ces hommes, mais fi à n'en pas douter, il s'agit des juifs pieux qui se sont convertis au judaïsme. Ces hommes sont en train d'enseigner que le salut pour les païens, les non-juifs, ne peut seulement être conditionné à leur foi. À cela doit être ajoutée la pratique des coutumes, des rites de la loi juive. Pour eux, le salut est aussi conditionné par la pratique de la loi. Cette question ne semble pas avoir l'assentiment de tous. C'est pour cela qu'il est demandé à Paul et à Barnabas et à quelques autres de régler cette question avec les apôtres, nous dit le texte. Lors de la réunion, Luc est plus clair dans la description des Juifs en question. Il s'agit cette fois-ci d'anciens du parti des pharisiens. Mais il s'agit de personnes qui ont placé leur foi en Christ. Pour eux, le salut par la foi n'est pas tout à fait suffisant à l'intégration dans la foi chrétienne. Il faut que les païens obéissent à la loi de Moïse et notamment se fassent circoncire. L'affaire ne semble pas si simple qu'on pourrait le croire, puisque un examen approfondi est effectué par les apôtres. Pierre se lève, raconte son témoignage. Il raconte que Dieu l'a choisi pour être son porte-parole de l'Évangile, dans le but qu'il croit. Mais Dieu, dit Pierre, a rendu témoignage à certains païens en leur donnant le Saint-Esprit. Comme à nous. Il n'a fait aucune différence, dit Pierre. Comment pourrions-nous tenter Dieu et mettre un fardeau à nos frères païens, dit Pierre. En effet, c'est la grâce de Jésus que nous croyons être, par laquelle nous croyons être sauvés, dit Pierre. Devant le réquisitoire de Pierre, tout le monde garde le silence. Et c'est l'occasion pour Paul et Barnabas de raconter leur témoignage et notamment tous les signes et les prodiges que Dieu avait fait parmi les païens. Après ces deux témoignages, Jacques, le demi-frère de Jésus, prend la parole. Il appuie Simon dans son témoignage auprès des païens et relève du témoignage de Simon le fait que Dieu est intervenu pour consacrer un peuple à son nom. Jacques ne s'en tient pas qu'au témoignage, il appuie cela par la parole des prophètes Amos 9, 1, 11 à 12, dont il voit l'accomplissement. Jacques réalise la synthèse pratique en disant qu'il ne juge pas bon de créer des difficultés aux païens afin qu'ils se convertissent à Dieu. Mais il leur rappelle qu'ils doivent s'abstenir de l'idolâtrie, de l'inconduite sexuelle et des animaux étouffés et du sang. Une lettre est alors envoyée dans toutes les églises. Et il est choisi des messagers pour l'envoyer. Nous sommes à un moment charnière de l'Église. Du traitement de cette question se joue l'avenir de l'Église et de sa croissance. Rien ne peut être laissé au hasard. La division semble se profiler. Mais que faire pour enrayer cela ? Tout en gardant la vérité au centre. Encore une fois, le salut par grâce est au centre du problème et de la solution. Versets 1 et fin. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Ces juifs, pieux et pratiquants, ont de la peine à abandonner une tradition de mérite devant Dieu procurée par l'obéissance à la loi. Le point essentiel de leur doctrine pourrait être résumé ainsi. Ils ramenaient la religion à l'observation de la loi et enseignaient que Dieu n'accorde sa grâce qu'à ceux qui se conforment à ses ordonnances. La piété devient ainsi formaliste, la disposition de cœur ayant moins d'importance que l'acte extérieur. Joseph, lui-même pharisien, dit que les scribes ne se contentent pas d'interpréter la loi plus subtilement que les autres sectes, mais imposent au peuple une masse de préceptes tirés de la tradition, ne figurant même pas dans la loi de Moïse. Lors de la réalisation de mon mémoire, lorsque je suis devenu expert comptable, j'ai réalisé un mémoire sur les associations cultuelles et la législation française. J'ai analysé comment la France définissait le culte. Et pour l'État, la forme importe plus que le fond. dans son arrêt du Conseil d'État, il précise la notion. Les associations revendiquent le statut d'association cultuelle doit avoir exclusivement pour objet l'exercice du culte, c'est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement par des personnes réunies par une même croyance religieuse de certains rites ou de certaines pratiques. Merci le Conseil d'État. La reconnaissance du caractère cultuel d'une association est largement calquée sur le caractère extérieur du culte. Nous sommes vraiment très proches des pharisiens dans leur conception de la foi. La religion est caractérisée par le formalisme et les actes extérieurs moins que par les dispositions intérieures. La religion est formalisée et cantonnée le dimanche matin. L'État préfère une église cantonnée à la sphère privée plutôt qu'à la sphère publique. C'est d'ailleurs l'un des plus grands fléaux de l'église évangélique en France. Nous croyons souvent meilleurs que les autres, puisque attachés à la parole de Dieu, nous avons oublié que nous étions malheureusement imperméables à ces idées et largement influencés par elles. Pour ces juifs convertis, la grâce rendait les choses trop faciles aux non-juifs. Ils ont peut-être eu peur de paraître trop éloignés du judaïsme dans la pratique de leur nouvelle foi, ce qui pourrait entraîner la mort et leur expulsion par les juifs. Mais sans doute, ils souhaitaient poser des exigences par rapport aux non-juifs qui leur permettraient d'exercer contrôle et autorité sur le mouvement naissant. Mais où en sommes-nous de nos vies? Nous satisfaisons-nous de venir au culte le dimanche, d'aller au groupe de jeunes ou de participer à un groupe de maison? Est-ce que nous nous sommes engourdis par les activités que nous aurons oubliées même Dieu lui-même? Ce danger ne touche pas que les autres, il nous touche tous, moi le premier. C'est un fléau grave, car il ramène tout doucement notre foi à la réalisation d'actes extérieurs, et nous finissons par croire que notre foi est limitée à la réalisation d'actes. Comment définissons-nous notre foi à nos amis non-croyants? Est-ce que notre foi est basée sur une liste de choses à faire? La participation à des activités de l'Église, la réalisation d'actes comme la lecture de la Bible, la prière ou le jeûne. En cela, nous ne sommes pas bien différents de ces juifs du parti des pharisiens. Vous semblez peut-être cela un peu dur, pourtant c'est la vérité. Nous avons abandonné le salut par la grâce et nous l'avons remplacé par une tradition de mérite basée sur des choses à faire. Je nous en supplie et je m'intègre à 100% dans cette exhortation. Dieu n'accepte pas cela et Dieu n'agrée pas des chrétiens évangéliques. Pareil. Nous ne pourrons rien faire pour nous approcher de Dieu. En nous croyant meilleurs que les autres, en tant que chrétiens évangéliques, nous sommes lentement mais sûrement en train de devenir ce que les pharisiens étaient. Ils avaient bien démarré au départ, mais malheureusement très mal fini. Mais en quoi, Samuel, cela est dangereux pour la croissance de l'Évangile? Si c'est cela la foi chrétienne, alors elle n'est rien d'autre qu'une religion parmi tant d'autres. Et elle ne fera d'aucune percée, elle ne fera aucune percée dans ce monde. Par contre, elle se fondera parfaitement dans les structures de notre société, mais elle perdra toute sa vigueur. C'est d'ailleurs pour cela que la foi chrétienne vivante en France a quasiment disparu. C'est le danger du 1er siècle, c'est le danger du 21e siècle pour la France et pour notre Église. À travers le témoignage de Pierre sur le problème, celui-ci que rappelle, et je paraphrase les versets 7 à 11, c'est le choix de Dieu que les païens se convertissent à l'Évangile de Christ. C'est son choix, c'est son désir. Mais non seulement d'être son choix, verset 8, Dieu a attesté de la transformation de leur cœur en le donnant l'Esprit, le Saint-Esprit, Dieu lui-même à l'intérieur d'eux. Dieu n'a fait aucune distinction, verset 9, entre nous les juifs et les non-juifs, puisqu'il a purifié leur cœur. C'est pourquoi Pierre demande, verset 10, pourquoi les juifs tentent Ces juifs convertis au christianisme, tentent Dieu en ne croyant pas ce que Dieu a fait dans leur cœur et dans le cœur de ces païens. Ils souhaitent asservir une nouvelle fois les païens sous un nouveau joug que personne n'a réussi à porter. Mais le seul moyen, Pierre nous rappelle, par lequel nous sommes sauvés, c'est sa grâce. Une fois de plus, nous voyons que notre salut ne vient pas de nous. Même si cela paraît une folie, Pierre, je crois, est assez explicite. Dieu a fait un choix, et c'est son désir que les païens croient en Jésus-Christ. Au-delà du peuple juif avec lequel il avait contracté une alliance particulière, Dieu désire maintenant choisir un peuple dirigé par l'Esprit qui sera son choix. En plus, Dieu nous montre que c'est lui-même qui transforme les vies et qui atteste de la transformation opérée par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous pouvons être des vecteurs de sa parole, si bon soit-il. C'est Dieu qui opère la transformation de changer un cœur de pierre en cœur de chair et de permettre le revirement complet que nécessite la conversion. Dieu ne se préoccupe plus de la race, du sexe. Non, il purifie le cœur, et cela non au mérite de personne, dit Pierre, ni pour un juif, ni pour les païens. Nous sommes au bénéfice d'une faveur imméritée au regard de notre condition d'homme et de femme qui faisons le mal. Comme un prisonnier qui est gracié par le président, c'est un cadeau que Dieu nous fait immérité. C'est pourquoi, mais pourquoi encore revenir sur ce point? C'est le propos de Pierre. Pourquoi nous voulons tenter Dieu en imposant une nouvelle servitude aux païens? La grâce, qui veut dire le cadeau immérité, nous affranchit de toute dette envers Dieu. La grâce nous permet d'accepter notre incapacité pour accéder à Dieu et recevoir comme un cadeau le fait que Dieu ait fait le pardon, ait fait le chemin du pardon en notre direction. Le cadeau immérité est la source de notre plus grande liberté. En effet, grâce au fait que notre salut ne dépend pas de nous, mais du choix de Dieu, c'est une source immense de libération au jour du doute et de l'épreuve. Aucune œuvre, aucune chose que nous pourrions faire nous permet d'accéder à quoi que ce soit de Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous. Si nous conditionnons notre délivrance et notre salut par la réalisation de la loi ou d'une quelconque pratique, nous mettons sur la condition humaine un poids et une culpabilité énormes qu'aucune personne n'est capable de relever. En effet, le peuple juif n'a jamais réussi à obéir au commandement de Dieu. Comment pourrions-nous y arriver? Serions-nous meilleurs qu'eux? Quand je vois nos vies, quand je vois ma vie, je ne me fais aucune illusion sur notre capacité à obéir à Dieu, naturellement. L'homme n'est pas bon, il est pourri, et cela n'est pas la peine d'aller chercher Sarkozy, il suffit de se regarder dans une glace et de voir la réalité en face. Toutes les religions et les philosophies du monde conditionnent la délivrance ou le salut par nos actions ou par des œuvres que nous pourrions faire pour atteindre soit Dieu, soit un état libérateur de notre être. Mais le postulat est faux dès le départ, car il nous considère comme capables du bien, alors que nous sommes rongés par le mal et incapables de s'en sortir tout seuls. Non, nous ne devons mettre aucun joug, aucun fardeau sur nous. Dieu nous a complètement affranchis par Jésus-Christ, et nous devons mettre notre foi en ce Jésus qui désire nous sauver. Et cela est suffisant, complètement suffisant. Si aujourd'hui vous n'avez pas donné votre cœur et placé votre foi en Christ, Jésus vous appelle à lui. Jésus-Christ dit, j'ai tout pris, ton péché et la condamnation qui allait avec. Tu n'as rien à faire, j'ai tout fait. Il suffit d'accepter le sacrifice que j'ai fait pour toi, car tu es mauvais et incapable de venir vers moi. Mais je t'aime. Demandez-lui pardon, et Dieu fera cette transformation en vous donnant son esprit, qui vous permettra de changer. C'est ça le salut par la foi seulement. Paul et Barnabas prennent alors la parole, verset 12, pour raconter les merveilles que Dieu a fait au travers de leur parcours. Mais ce n'est pas tout. Le conseil de Jérusalem, et notamment le représentant de l'église de Jérusalem, à l'époque Jacques, ne peut traiter le problème que sur la base de leur témoignage, et notamment du témoignage de Pierre et de Paul et Barnabas. Quelle que soit la valeur de notre témoignage, celui-ci ne vaut rien s'il n'est pas appuyé par la parole de Dieu. C'est pour cela que Jacques prend la parole et s'appuie sur la parole des prophètes pour clore et conclure le débat. Jacques possédait un penchant marqué pour la loi. D'ailleurs, dans son épître, on peut voir qu'il y a 10 références au moins à la loi. Il jouissait donc d'un grand crédit auprès du clan des Juifs, anciennement pharisiens. Il s'appuie sur le passage d'Amos 9, 11 à 12 et montre que son accomplissement est arrivé. Pour les Juifs, c'est tout simplement hallucinant ce que Jacques est en train de dire. Jacques considère la prophétie du rétablissement d'Israël suite au jugement et l'exil dont le peuple d'Israël faisait l'objet dans Amos comme résolu dans l'intégration des païens dans le plan de Dieu. Ainsi, le relèvement du royaume d'Israël se réalise pour Jacques par l'extension du royaume et son ouverture aux païens. Encore de sa seule volonté, Dieu a désiré intervenir une bonne fois pour toutes pour s'acquérir un peuple qui porte son nom et qui n'est plus limité par une zone géographique ou une race. Ce propos est une véritable révolution pour les Juifs qui se croyaient être dépositaires de privilèges conséquents et quelque part au bénéfice d'une certaine autorité. Encore une fois, Dieu ne fait pas de distinction, car nous ne sommes pas au bénéfice de notre salut, ni pour les Juifs, ni pour les païens. Ainsi, aucun n'est en droit de s'arroger un quelconque droit par rapport à Dieu. Dieu, dans son immense souveraineté, a décidé d'ouvrir son royaume aux Juifs, certes, mais également à tous les hommes juifs et non-juifs. Et en cela, nous sommes tous égaux. La grâce de Dieu, ce cadeau immérité, ouvre une porte immense pour la croissance de l'Évangile et pour sa propagation. Plus personne n'est privilégié. Nous sommes tous devant le même constat, mauvais et incapables d'aller vers Dieu. Mais c'est pour cela que Dieu, que la grâce de Dieu est à l'œuvre par Jésus-Christ et qu'elle nous demande seulement d'accepter son pardon et de mettre notre foi en celui qui a accompli en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, celui qui donne la vie. Mais ce n'est pas tout. La grâce est aussi pour Dieu le vecteur de son amour, la source intarissable de son amour. Les responsables et toute l'Église de Jérusalem ont pris une double décision. Une décision doctrinale sur la question du salut par la foi et une décision pratique sur la façon de mener la vie chrétienne. Toute doctrine entraîne cependant des obligations. Jacques l'a souligné dans son épître, Paul également dans ses lettres. Il ne suffit pas d'accepter simplement une vérité biblique, nous devons l'appliquer personnellement dans notre vie quotidienne. Les problèmes de l'Église ne sont pas résolus par l'adoption de résolutions en Assemblée générale, mais bien par l'application des révélations données par Dieu dans sa parole, dans nos vies. Et c'est ce que nous découvrons avec la conclusion de Jacques. Je vous invite à lire avec moi les versets 19 à 21, si vous n'êtes pas encore endormis. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite et des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse dans chaque ville a des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Et là, on peut voir que la conclusion de Jacques et du concile est empreinte de beaucoup de sagesse. Ce courrier réclame l'obéissance à deux commandements et la volonté d'accorder deux concessions. Les deux commandements étaient d'éviter l'idolâtrie et l'immoralité, péché très répandu chez les païens, et les deux concessions consistaient à s'abstenir volontairement de consommer du sang et de la viande d'animaux abattus par strangulation. Les deux commandements ne posent aucun problème, car l'idolâtrie et l'immoralité ont toujours été réprouvées par Dieu, pour les juifs comme pour les païens. Mais que penser des deux concessions alimentaires? On est obligé de se rappeler que l'Église primitive pratiquait énormément les repas en commun et l'hospitalité, et la plupart des assemblées se réunissaient dans des foyers, et certains organisaient un repas en plus de la Sainte Cène. Si les païens mangeaient de la nourriture considérée comme impure par les juifs, cela engendrait des divisions dans l'Église. Il est merveilleux de constater que la lettre exprime l'unité affectueuse d'individus qui ont débattu en exprimant des points de vue opposés. Les légalistes juifs ont renoncé à réclamer la circoncision des païens pour leur salut, et les païens ont accepté de modifier leur habitude alimentaire. C'est un compromis rempli d'amour qui n'affecte en rien la vérité de l'Évangile. Comme dans toutes les familles, il y a des circonstances dans la vie d'un foyer où le compromis est néfaste et d'autres où il est favorable. Un auteur dit « La vie ne peut subsister dans une société qu'à travers des concessions réciproques. Il est difficile de vivre heureux à côté d'un être qui veut toujours avoir raison et qui insiste pour parvenir à ses fins. » Quel effet produit cette décision dans la pratique? Elle entraîne au moins deux conséquences. D'abord, elle a renforcé l'unité de l'Église et a empêché sa scission en deux groupes. L'un partisan de la loi, l'autre de la grâce. Une fois encore, il ne s'agit pas d'un compromis doctrinal, car celui-là est toujours mauvais, mais bien le désir de donner toujours et de prendre dans le cadre de dispositions pratiques de la vie afin que les individus puissent vivre et travailler ensemble dans l'amour et dans l'harmonie. Deuxième conséquence, cette décision a permis à l'Église de présenter un témoignage uni aux Juifs perdus. Les églises restaient en grande partie assimilées aux synagogues juives. Il est probable que certaines juives aient vu toute l'assemblée de la synagogue se convertir à Christ. Si les chrétiens d'origine païenne avaient abusé de leur liberté en Christ et mangé de la viande contenant du sang, leur comportement aurait offensé les juifs sauvés et les amis incrédules qu'ils s'efforçaient de gagner à Christ. Il s'agissait simplement de ne pas être une pierre d'achoppement pour les faibles ou les perdus. Une telle attitude ne peut que plaire à Dieu et le permettra de mieux s'entendre avec leurs frères et sœurs juifs. L'Église primitive fait l'expérience des difficultés entraînées par la réunion de personnes d'arrière-plan différents. Il y a diversité aussi bien du point de vue de l'histoire que celui des traditions, des pratiques, des coutumes, de la culture et de la langue. Imiter notre Seigneur nous amène à la tolérance, la compréhension et l'acceptation. Il ne s'agit pas d'admettre tous les styles de vie marqués par le péché, mais bien d'être tolérant vis-à-vis de nos arrière-plans différents. Quand Jacques mentionne les quelques règles à respecter pour les non-juifs, il est clair pour lui que les normes morales fondamentales et le désir de vivre pour Dieu doivent orienter le reste de notre comportement. Il n'y a rien qui donne plus gloire à Dieu et qui témoigne plus fortement de la foi chrétienne que l'unité dans l'amour et l'adoration du Sauveur de croyants issus de nations d'arrière-plan et de couches sociales totalement différentes. Si je devais compter le nombre de nationalités d'arrière-plan dont l'Église fait partie, on verrait qu'on vient de différents horizons. Les problèmes et les différences offrent autant d'occasions de grandir que la tentation de se disputer et de se diviser. Nous devons travailler ensemble et prendre le temps d'écouter, d'aimer et d'apprendre. Combien de divisions et de conflits douloureux auraient pu être évités si seulement quelques enfants de Dieu avaient laissé le temps à l'esprit de s'exprimer et d'œuvrer. Nous devons apprendre l'art du compromis dans l'amour. Nous devons définir nos priorités pour savoir quand se battre pour ce qui est important, vraiment pour l'Église. C'est un péché que de se rallier à la cause d'un membre autoritaire de l'Assemblée qui se bat pour obtenir raison sur une question mineure. En offrant nos différences, nous devons nous demander quel sera l'impact de nos décisions sur l'unité du témoignage de l'Église auprès des perdus. Jésus a prié que son peuple soit uni pour le monde, pour que le monde puisse croire en lui. L'unité n'est pas l'uniformité, car l'unité repose sur l'amour et non sur la loi. Notre salut ne dépend pas de nos efforts et de nos actes. D'une quelconque œuvre, non, car nous sommes tous pécheurs, juifs et non-juifs, devant Dieu, et nous ne pouvons être sauvés que par la foi en Jésus-Christ. Il existe un problème commun et un seul évangile pour y répondre. Dieu ne poursuit qu'un seul programme. Aujourd'hui, il appelle un peuple à se rallier à son nom. Mais ce n'est pas tout. Dieu a ouvert pour nous une porte merveilleuse vers de multiples occasions de présenter l'évangile de la grâce divine à un monde perdu et condamné. Sans amour, la division dans l'Église primitive aurait été inévitable. L'amour, au contraire, tranche pour la vérité, mais avec une grande sagesse. Elle fait faire la différence d'une montagne par rapport à une taupinière. La grâce a été la clé de la croissance dans l'Église primitive. Elle est la clé de la croissance de l'Évangile au XXIe siècle. D'ailleurs, j'aimerais juste conclure et terminer par cette petite histoire. Il y a une cinquantaine d'années, un repas a été organisé en Angleterre. Les personnes attablées étaient soudées par un combat spirituel. Le sujet général était la comparaison entre les religions, qui suscita un débat portant sur la distinction les plus éminentes du christianisme. Qu'est-ce qui différenciait cette religion de toutes les autres? Un participant invoqua l'incarnation du Christ, un autre sa résurrection. Toutefois, certains objectèrent que ces deux caractéristiques essentielles du christianisme faisaient aussi partie de déités d'autres religions. C.S. Lewis, qui vient se joindre tardivement aux convives, donna la réponse dès qu'il entendit le sujet. « Oh, c'est simple !» déclara celui qui fut sans doute le plus grand défenseur de la foi chrétienne du XXe siècle. « C'est la grâce. » La grâce. La grâce ouvre toutes les portes, car elle est la seule clé pour aller à Dieu. Source de salut et de l'amour de Dieu. Allons-nous la saisir, pour nous, dans l'Église? C'est à nous de choisir, à nous seuls.